Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous et merci Marco de citer mes belles audiences. Ça fait toujours plaisir. Bonsoir Sidonie,
oui,
comment ça va?
Vous m'aveuglez avec vos chaussures bien cirées là, Thomas. Il va falloir faire attention, j'ai mal aux yeux. Salut à tous les curieux. Allez, un beau programme ce soir. Un Tour de France, pas commun. Ah, il y a du soleil, mais pas que. Notre invité a parcouru 6645 km en un an pour nous alerter sur l'état de notre patrimoine. Des découvertes absolument magnifiques, de belles légendes, mais aussi un constat triste. Des pans entiers de notre histoire disparaissent.
Et puis on va chasser les idées reçues à propos d'une ville qui fait parler d'elle pour ses immeubles extravagants, Dubaï. Dubaï, c'est aussi une vitrine technologique du futur et une cité où le business passe souvent avant le Coran. Mais tout de suite, l'épopée des Verts.
RTL.
C'est du délire dans le stade. Et c'est Kazaoui là-bas qui arrive de la gauche et qui marque du gauche. Fantastique.
So far away from it.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est sûrement Jean-Michel Larquet qui va frapper cette balle. Et but ! Ce sont le Saint-Étienne. C'est absolument extraordinaire.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'était il y a 40 ans, en 1976, et je pense que 4 décennies plus tard, ça me donne encore des frissons d'entendre les commentaires sportifs de ces matchs de l'AS Saint-Etienne, une équipe qui allait redonner sa fierté au foot français. Les Verts devenaient un phénomène de société grâce à un parcours héroïque en Coupe d'Europe. On vous raconte leur histoire donc avec Vincent Duluc. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à l'équipe. On vous avait reçu ici même pour parler d'une légende du foot, l'Irlandais Georges Best. Vous êtes journaliste à l'équipe, originaire de la région lyonnaise, plutôt supporter de Saint-Etienne ou de Lyon? On a le droit de se prononcer quand t'es journaliste à l'équipe.
Objectivité journalistique.
Mon père est stéphanois, mes enfants sont lyonnais, c'est un dilemme permanent.
Donc le derby hier soir, vous avez regardé ça tranquillement? C'est jamais un match comme les autres.
Non, c'est jamais un match comme les autres. Il y a trop de rivalité pour ça. Il y a trop d'historique. Et il y a, par bonheur, trop de folklore.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du foot français, l'AS Saint-Etienne en 1976, c'est l'équipe qui domine depuis combien de temps?
C'est une équipe qui domine les années 70, vraiment. C'est surtout une équipe qui arrive à un moment où tous les cœurs sont à prendre en France. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne pourra plus beaucoup changer la carte des affections, on va dire, dans le foot. Il y a des supporters marseillais, les supporters parisiens, les stéphanois, les lyonnais. Mais à l'époque,
pourquoi les cœurs sont à prendre?
Mais parce qu'en 1970, c'est un peu le début des matchs de Coupe d'Europe à la télé. Il y a très peu de matchs de foot à la télé. Il y en a 6 ou 7 par an. Donc en tant qu'adolescent, on gère la rareté.
C'est un événement.
C'est quelque chose de particulier.
Regarder un match de foot à la télé, c'était un événement. Il fallait avoir bien travaillé à l'école. Hein.
Exactement. On avait droit peut-être aller à 6 matchs par an avec autorisation parentale. Donc, il fallait vraiment avoir été gentil et ça se passe bien à l'école. Et on attendait les matchs peut-être 2 mois à l'avance. Aujourd'hui, on est partout chaque week-end dans toute l'Europe. Donc ça a vraiment changé. Mais là, les cœurs étaient à prendre parce que justement, depuis le grand Reims de Raymond Coppa à la fin des années 50, aucun club n'avait réussi quoi que ce soit en Coupe d'Europe et Saint-Etienne a profité à la fois d'être le premier sur ce terrain-là et puis d'être le premier à un moment où la télé est partout. Et c'est ça qui a provoqué la popularité à part des Verts.
Vincent Duluc, vous racontez votre enfance à Bourg-en-Bresse, bercée par les exploits de Saint-Etienne dans un livre paru chez Stock, Un printemps 76, vous vous en souvenez bien. On va faire les présentations de cette équipe qui a fait tant rêver de Français. Qui était le capitaine?
Le capitaine était Jean-Michel Larquet, qui était quelqu'un qui était devenu pro un peu sur le tard parce qu'il avait voulu pousser jusqu'au bout ses études de prof de gym, donc il passait pour quelqu'un qui était un peu plus réfléchi que les autres. C'était un capitaine meneur et qui n'était pas forcément toujours aimé, mais qui était quand même assez respecté.
Et la grande star de l'équipe de Saint-Etienne?
Mais la grande star de l'équipe en 1976, c'est le plus jeune, c'est Dominique Rocheteau. Il a 20 ans, il a des grandes boucles brunes. Il joue en première division depuis un an seulement. Au bout de 5 matchs en première division, il jouait déjà en équipe de France. C'était un phénomène et au bout d'une saison, il y avait déjà 2 disques sur lui et toutes les filles en France étaient amoureuses de lui.
Surnommé l'ange vert, Dominique Rocheteau.
Alors c'est un surnom qu'il n'a pas aimé, mais qui forcément lui a collé à la peau parce qu'il y avait quelque chose d'un ange, surtout chez un ailier. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée qu'un joueur qui jouait sur l'aile était plus près des anges, probablement.
Et vous rêviez de d'être rocheteau pour ne pas avoir à vous coiffer, Vincent Dubuc.
Alors, les mauvaises langues disent que j'ai toujours pas eu un problème.
Vous avez réussi une belle carrière.
J'ai vérifié sur RTL.fr.
que j'ai gardé ça. Mais effectivement.
Ah, vous l'avez écrit dans votre livre, j'ai rien inventé.
C'est vrai. Non, mais rocheteau pour tout le monde, c'était une espèce de liberté. C'est quand même. Il aimait la musique californienne.
Il se faisait
prendre en photo derrière sa batterie ou derrière ses guitares, alors que les autres footballeurs étaient comme ça sagement en famille dans les magasins. Et lui, voilà, il menait une vie différente. Et
une vie de star ? Non, pas forcément.
Pas vraiment une vie de star, mais une vie de. En plus, il avait un peu le charme de ceux qui parlent pas beaucoup. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a toujours une voix très douce, qui parle très peu, et finalement, ça renforçait le mythe, à l'évidence.
Alors, vous dites, Vincent Duluc, que c'était une autre époque, ce Saint-Étienne des années 70, Saint-Étienne du printemps 76. Rien que sur la composition d'équipe, il n'y avait que deux étrangers. Aujourd'hui, le foot français et européen, c'est mondialisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 9 des 11 joueurs étaient formés au club, c'est ça ?
Oui, absolument, 9 des 11 joueurs avaient grandi avec le club, et en plus c'était aussi à une époque où le marché des transferts existait, mais par exemple Saint-Etienne, il n'y avait eu aucun départ et aucun arrivé depuis deux ans, c'est complètement impossible aujourd'hui, il y a 12-15 mouvements de joueurs tous les 6 mois, donc il y avait l'identification possible à la fois par la stabilité, et puis l'identification était d'autant plus forte que finalement cette équipe ressemblait un peu à cette ville, il y avait la culture de l'effort de l'équipe qui se mariait avec la culture ouvrière de la ville.
Parce que c'était une ville minière encore à cette époque, Saint-Etienne, c'est ça, la fin de la période du charbon ?
C'était vraiment la fin de la période du charbon. Le plus grand puits de la ville, le puits Couriot, avait fermé en 73. D'autres puits allaient fermer. Le dernier puits, ça allait être celui de la Ricamari. Donc c'était la fin des mines. Et il commençait à y avoir un peu des débrayages et du chômage à Creuse-aux-Loire. Donc il y avait une vraie mutation quand même industrielle. Et c'est un peu paradoxal que la ville soit devenue à ce point célèbre au moment où elle avait plutôt tendance à s'enfoncer un peu dans les ténèbres.
En 76, Saint-Etienne domine le foot français depuis plusieurs années et l'équipe va aussi gagner sur presque tous les terrains d'Europe. On vous raconte cette épopée sur RTL.
C'est extraordinaire ! Je vous l'ai dit, Patrick Revelli est en grande forme. Il a réussi à dribbler toute la défense et à donner un retrait à Rosto qui a marqué.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Avec vous, Vincent Duluc, on raconte cette épopée incroyable 1976, les Verts, la Coupe d'Europe. Ce 45 tours, il y a eu un succès de fou.
Ah ben, un succès de fou, ils en ont vendu, je pense, à peu près 1 million.
Il est sorti après la demi-finale, c'est ça ?
Il est sorti voilà, au printemps 76, et on l'entendait 5 fois par jour sur les radios périphériques. Et à l'époque, il fallait vraiment aimer cette chanson, parce qu'à peu près 2 chansons par heure, pour ceux qui aimaient la musique, et pour seule source, les 4 radios périphériques, ouais. ça monopolisait vraiment tout le reste.
Donc c'était même un hymne national, c'est ça ?
Ah mais c'était un hymne national, et je cite dans le livre, il y a une fin d'émission Système 2 avec Guy Lux, où Guy Lux a le t-shirt de l'Est Saint-Etienne, et tous les invités chantent, tous les stars des années 70 sautent sur place en criant « Allez les Verts ».
Même mes frangines qui vraiment ne connaissent rien au foot chantaient « Allez les Verts », c'est vous dire.
Vincent Duluc, on a présenté les joueurs. On va parler maintenant de l'entraîneur mythique aussi, c'est Robert Herbin. On le surnommait le Sphinx, pourquoi ?
On le surnommait le Sphinx parce qu'il bougeait pas du tout. Il semblait d'une pièce et il était toujours de mauvaise humeur. Il répondait pas aux questions. Moi, je l'ai connu jeune journaliste et c'était très désagréable. On vous posait une question, il répondait c'est votre avis. Et puis ça s'arrêtait là. il fallait relancer.
Est-ce que ses cheveux, à lui aussi, parlaient pour lui ? Il avait une sacrée chevelure.
Mais oui, exactement. Il avait une grande chevelure rousse. Mais je pense que c'est quelqu'un qui était vraiment adapté à ce moment-là. Il a jamais réussi après, nulle part, dans aucun club.
Il était là au bon moment, c'est ça que vous
voulez dire ? Il était là au bon endroit, au bon moment. Il a été à la base même de la révolution qui a été là aussi, le jeu de Saint-Etienne, un jeu qui était athlétique, qui avait beaucoup d'intensité. J'ai revu pour les besoins du livre les matchs de ces années-là. Ils n'ont pas tant vieilli que ça, et ça tient aussi au fait que lui et senti que pour jouer au foot, il fallait courir. Et mine de rien, c'était pas si évident à l'époque.
C'est assez drôle que vous disiez ça. Alors, on va pas raconter toutes les étapes de cette épopée verte.
Elles sont dans le livre.
Oui, elles sont dans
un
le livre.
Un printemps 76 chez Stock.
Publié chez Stock. Le quart de finale, peut-être, contre le Dynamo Kiev. Donc là, on est, il y a 40 ans tout juste, on était en janvier 76. On avait le compte à rebours du quart de finale, c'est ça? C'était en mars, le quart de finale, si je me souviens bien.
Le quart de finale était le 17 mars 1976, ouais. Effectivement. C'est des matchs qu'on attendait longtemps à l'avance.
Vous comptiez les jours, quoi?
Ah ben moi, je comptais les jours, d'autant que j'étais allé en voyage scolaire avec mon lycée. C'est-à-dire que c'est à l'époque, voilà. J'étais au lycée Lalande à Bourg-en-Bresse et un jour il y avait une liste sur un mur en disant inscrivez-vous pour aller voir le match quart final contre Kiev et on s'était inscrit. Ça devait être 50 francs place comprise avec le bus.
Quelle chance.
Et c'était un truc incroyable. J'étais arrivé au stade et à 4h30 j'avais le nez contre le grillage derrière le but et j'avais pu bouger jusqu'à 11h, jusqu'à ce que je quitte le stade sans toucher les pieds par terre parce qu'il y avait tellement de monde en fait que la foule vous soulevait comme ça jusqu'à la sortie.
Donc match aller à Kiev et défaite de Saint-Etienne.
Le match aller avait même pas lieu à Kiev parce que il avait lieu en Crimée à Simferopol dans la neige. Enfin, tout ça ajouté au mythe.
Ouais.
Et effectivement, et le retour, Saint-Etienne avait perdu 2-0 à l'aller et au retour avait gagné 3-0 grâce à un but de Rocheteau pendant la prolongation avec le visage en sang à 10 mètres de moi. Je le revois encore marquer ce but décisif.
Et ça aussi, ça crée de la dramaturgie et de l'empathie du public français. J'imagine le fait d'avoir, enfin, c'est comme un très bon polar, quoi, cette
exactement.
Fin de match.
En fait, je pense que la popularité de Saint-Etienne vient, comme je disais tout à l'heure, à la fois de la télé et du fait que tous les cœurs étaient à prendre, mais aussi du renversement. C'est aussi l'exploit, le fait de renverser des situations périlleuses et mal parties qui a créé le mythe.
Alors, vous le racontez dans votre livre publié chez Stock, vous étiez, je sais pas, comme tout le monde... Devant Téléfoot, j'imagine, c'était présenté par qui Téléfoot à l'époque?
Et Téléfoot était présenté par Pierre Cangioni, dont on a justement entendu la voix tout à l'heure, ouais, sur les commentaires.
C'est lui qui crie sur les buts. Ouais.
Il commente le match avec Jean Reynal, qui est aussi une ancienne grande voix de la télé française. Et c'est vrai que ce sont des... Voilà, pour nous, c'était une grande découverte. Encore une fois, moi, le jour où je suis allé à Saint-Etienne-Kiev, c'est la première fois que je voyais un match de football en couleur, finalement. Jusque-là, je l'avais toujours vu en noir et blanc. Aujourd'hui, on a un peu tendance à oublier ça.
Et la fameuse demi-finale, on oublie souvent d'en parler. Contre qui jouaient les Verts?
Saint-Etienne a joué contre Eindhoven en demi-finale, avait gagné 1-0 au match aller, avait réussi à tenir le résultat 0-0 au match retour grâce à un immense Ivan Kurkovic qui était le gardien yougoslave des Verts à l'époque.
Tout ça les doigts dans le nez?
Non, avec
non,
beaucoup.
C'était facile.
Non, pas tant.
Alors en finale, face à Saint-Etienne, il y a des Allemands et puis il y a des poteaux carrés. A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Ballon pour le capitaine du Bayern Munich, Franz Beckenbauer. La sortie de Kurkovic qui s'impose dans ce premier duel. Dominique Battenay qui a de l'espace, qui a du champ et une bonne frappe, qui a éliminé Beckenbauer. La frappe de Battenay sur la transversale de cette manière.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La finale du 12 mai 76 et des titres de l'année 76 pour illustrer cette épopée verte. Il est 20h21. Merci d'écouter RTL. La curiosité est un vilain défaut, sauf jusqu'à 22h et surtout pour revivre ce printemps 76 avec notre invité, le journaliste de l'équipe, Vincent Duluc. Ces titres, on les a pas choisis par hasard parce que vous débutez chaque chapitre de votre livre publié chez Stock par une citation d'un disque de l'année 76, c'est ça?
Ah mais c'est vrai, absolument. J'ai fait tous les hits parades de l'année, tous les albums sortant cette année-là et j'ai cherché une phrase qui a un sens. Alors c'est pas toujours facile de trouver une phrase qui a un sens dans toutes les chansons qui disent j'ai rêvé de toi cette nuit pourvu qu'on se revoit demain.
On mettait déjà de la musique dans les stades à l'époque? Non.
À l'époque dans les stades, il y avait beaucoup d'accordéons. Il faut dire la vérité, c'était un peu plus André Verschuren que Rihanna quand même globalement.
Ouais, c'était bien aussi.
Ça a changé aussi. Est-ce qu'on peut dire que cette épopée européenne de l'AS Saint-Etienne en 76, ça remet le foot français en général sur le chemin de la victoire?
Mais ça le met surtout sur la carte. C'est-à-dire jusque-là, le foot français n'existe pas depuis le Grand Reims et Copa à la fin des années 50. Il s'est rien passé dans le foot français, ni au niveau des clubs, ni au niveau de l'équipe de France. Et là, pour la première fois, il se passe quelque chose. Et ça va être l'élément déclencheur, désinhibant, qui va permettre à la génération Platini vraiment de s'installer.
Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu 76 pour vous, il n'y aurait pas eu les Coupes du Monde 82, le titre 84, etc.
Alors après, peut-être que Super Platini serait arrivé quand même, ouais, tout d'accord. Seul, parce qu'il avait vraiment des super pouvoirs.
C'est pas faux.
Mais globalement, il a quand même fallu que cette génération-là débloque quelque chose et provoque un élan nouveau. Elle l'a vraiment fait en profondeur, oui.
Le 12 mai 1976, à 20h, la France est devant sa télévision. La folie a commencé sur RTL le matin même avec Max Meynier et Marc Ménin.
Notre envoyé spécial sur le trottoir de la rue Bayard, Marc Ménin.
Max Meynier est habillé comme le capitaine de Saint-Étienne, c'est-à-dire comme Jean-Michel Larquet. Alors Max, est-ce qu'il est plus dur d'être animateur, chanteur ou footballeur?
Bon, je vais te dire, mon rêve, ça aurait été d'être footballeur professionnel. Alors j'ai pas perdu l'occasion.
Vous le savez, il y a 100 routiers qui vont venir avec moi dans une heure ou deux. On va s'embarquer à bord du Boeing RTL pour aller à Glasgow.
On fait le tour d'honneur avant, c'est plus sûr.
RTL avait même affrété un Boeing pour Glasgow.
Avec 100 routiers à l'intérieur. C'est génial.
Et le soir, c'est TF1 qui diffuse le match. Vous le racontez, Vincent Duluc, dans votre livre Un printemps en 76, publié chez Stock. Comment ça s'est décidé, cette diffusion du match sur TF1? Un peu au hasard?
Mais complètement au hasard. Ils ont fait ça à la pièce, TF1 Antenne 2, pour savoir qu'elle est diffusée en direct à 20h45 et qu'elle est diffusée en différé à 22h30. Mais en même temps, les deux chaînes diffusaient pas en couleur sur l'ensemble du territoire, donc il y avait aussi ça qui était en jeu.
Ça veut dire qu'à l'époque, les droits du foot ne donnaient pas lieu à des surenchères comme on peut connaître aujourd'hui, quoi.
Mais à l'époque, il n'y avait pas de droits du foot. À l'époque, les présidents des clubs de foot estimaient que la télé allait vider les stades et refusaient que les... Moi, jeune, ayant grandi dans la région Rhône-Alpes, à chaque fois qu'il y avait un match de Saint-Etienne en Coupe d'Europe, on risquait d'être occulté. C'est-à-dire que toute la région Rhône-Alpes risquait d'être privée du match de Saint-Etienne. Et c'est souvent arrivé. Je me souviens qu'une fois, j'ai vu un match de Coupe d'Europe dans la cuisine avec l'émetteur tourné dos au Pila pour une fois et plutôt vers le col de la Faucille et le pays de Gex pour pouvoir avoir le droit de voir un match contre les Rangers.
C'est génial.
Donc voilà, c'est complètement une autre époque.
Est-ce qu'on a une idée de l'audience télé de ce match, Vincent Duluc?
On suppose qu'il y avait à peu près 20 millions de téléspectateurs, mais à une époque où tout le monde n'avait pas forcément la télé, où beaucoup de gens avaient seulement la première chaîne. Du coup, comme TF1 avait gagné le tirage au sort, ça avait quand même favorisé l'audience. Mais c'est des images incroyables. J'ai revu le journal de 20h juste avant la finale et on voit à la fin, juste avant le générique un peu de bazar élite TF1, on voit Roger Gicquel avec un ballon dans les mains quand même. Donc c'était vraiment
une époque. Et à 13h, Mourouzi avait démarré son journal avec l'image complètement verte. C'était vraiment pour donner l'intensité de la folie verte qui avait envahi la France. Le soir, c'est Pierre Cangioni qui commande sur TF1 et il démarre, vous le racontez dans votre bouquin, il démarre par un speech, une espèce d'éditorial très écrit. Qu'est-ce qu'il raconte?
Très écrit, très empoulé, on dit. Mais visiblement, quelqu'un qui se sent un peu dépossédé par l'espèce de fait et en gros, de manière mais assez littéraire, mais peut-être un peu excessive, il reproche finalement à des gens qui ne sont jamais intéressés au foot d'être devant la télé le soir même. C'est quelque chose d'assez lunaire et d'assez incroyable.
Parce que même Rocheteau était devenu une star qui intéressait tout le monde et donc il se sentait dépossédé, c'est ça?
Mais en fait, voilà, je pense que ceux qui étaient des journalistes de sport et qui travaillaient un peu dans ce ghetto n'aimaient pas vraiment qu'on vienne dans leur plate-bande. Les éditos de l'équipe de cette année-là sont un peu de la même veine. C'est en gros, mais comment ça se fait que la presse généraliste s'intéresse au foot? Mais depuis quand? Mais c'est un scandale, c'est notre domaine, donc c'est assez étonnant.
Saint-Etienne va perdre ce match? Est-ce que vous l'avez revu depuis?
Alors, je l'ai revu pour ce livre, parce que je voulais savoir un peu ce qui se passait. Parce que personne ne revoit les défaites. Enfin, ouais. Je ne sais pas.
Non.
France-Allemagne à Séville. Vous,
82, non,
j'ai jamais revu. Vous
avez eu ce courage-là.
Vous arrêtez à 3.
On s'arrête à 3-1 quand on est qualifié pour la finale. Voilà.
Après le but de Giresse, vous arrêtez. Et bien en 76, pareil, personne ne regarde. Et moi, c'est vrai que je l'ai revu. Ce n'est pas un immense match, mais c'est un match qui est resté un mythe tout de même.
Et on va vous le raconter dans la curiosité. Quand même, on va le raconter par le menu. Et puis la folie aussi qui a suivi malgré la défaite. A tout de suite sur RTL.
Il arrive à centrer la tête. Encore la transversale. C'est pas possible. Jacques Santini, malheureux.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Ne vous inquiétez pas, si vous nous voyez tout en vert, c'est pour marquer aujourd'hui de cette couleur particulière ce jour, ce mercredi 12 mai 1976.
Vous avez reconnu la voix d'Yves Mourouzi. Vous rappelez peut-être de ce moment incroyable à la télé, une image verte à l'honneur, en l'honneur de cette finale de Coupe d'Europe de l'AS Saint-Étienne contre le Bayern Munich. Nous sommes avec le journaliste Vincent Duluc, journaliste à l'équipe. Vous dirigez la rubrique football du journal. Et avec vous, on remonte 40 ans en arrière quand justement ce fameux jour, Saint-Étienne défie le Bayern Munich. Les poteaux des buts étaient carrés ce soir-là. Pourquoi ?
Parce que c'était souvent le cas dans les, sur les terrains britanniques. C'était un vieil héritage des inventeurs du jeu. Ça n'existait pas globalement dans les autres pays. Ça a duré à peu près jusqu'au milieu des années 80. Depuis, c'est harmonisé.
Et pourquoi c'est important ce soir-là ?
Et c'est important parce qu'il y a eu beaucoup d'études balistiques qui concluent inévitablement au fait que au moins un des deux buts aurait été marqué si les poteaux avaient été ronds.
Parce qu'il y a eu deux frappes
pointaine du pied gauche de Dominique Battenay et une tête très proche de Jacques Santini sur la barre et qui tombe devant la ligne malgré les poteaux carrés. Donc si le poteau était rond, mais forcément le ballon serait rentré.
Et ce soir-là, les Stéphanois, ils étaient plus forts que les Allemands du Bayern de Munich ?
Pas forcément. Le concept de la victoire morale est arrivé assez vite ce soir-là. mais la réalité, quand on revoit le match, c'est quand même un rapport de force qui est plutôt équilibré, voire même un peu en faveur du Bayern, qui était quand même une très grande équipe européenne et qui avait gagné cette année-là sa troisième Coupe d'Europe d'affilée avec le ballon d'or de l'époque, qui était Franz Beckenbauer. C'était quand même vraiment une grande équipe.
C'était l'ossature de l'Allemagne championne du monde 2 ans avant, c'est ça ?
Absolument. Il y avait Gerd Müller, Schwarzenbeck, Uli Hoeneß. Non, qui n'était pas en 74, qui était en 74. Il y avait Sepp Maier, le gardien. Effectivement, c'était tous les champions du monde de 1974.
Donc, c'est la meilleure équipe du monde qui bat Saint-Etienne ce soir-là ? Est-ce qu'on peut dire ça ?
C'est ça. C'est la meilleure équipe du monde qui bat difficilement Saint-Etienne ce soir-là. Mmh. Et depuis, jusqu'en 98, ce pays a quand même été réduit à célébrer une défaite plutôt qu'une victoire.
Vincent Duluc, est-ce que les joueurs avaient des superstitions avant un match pareil, aussi important dans leur carrière ?
Mais ils avaient tous des superstitions, mais ils ont encore tous des superstitions aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font des choses incroyables.
C'est vrai ?
Parfois, ils disputent une saison entière avec le même slip. Certes, ils le lavent, mais avec le même slip toute l'année.
La même forme.
C'était quoi les superstitions des Stéphanois ce jour-là, le 12 mai 76, vous en souvenez ?
Non, franchement, honnêtement, je les ai un petit peu oubliés, mais je me souviens si, par exemple, Dominique Rocheteau mangeait énormément de morceaux de sucre, 20 ou 25 morceaux de sucre. Il avait besoin de ça.
Ça casse les jambes, ça, voilà. Pourtant.
Que d'autres, ouais. D'autres avaient une croix, d'autres avaient toujours le même t-shirt. Que Ivan Kurkovic, ne jouait qu'avec des affaires repassées par son épouse.
Voilà. Ils y allaient comment ? Ils étaient sûrs de gagner ? Ils étaient ambitieux ? Ils y croyaient ? Ou au fond, ils se disaient non ? Bon, c'est pas possible qu'on devienne champion d'Europe, nous les Stéphanois.
Non, si,
c'est
si,
trop gros.
Si, ils y croyaient forcément, mais en même temps, encore une fois, on est à une époque où le sport français est extrêmement complexé. D'abord, on a gardé sportivement un complexe vis-à-vis de l'Allemagne qui a duré vraiment très longtemps et qui existe encore parfois aujourd'hui. Mais en 1976, ce complexe-là était vraiment prégnant, c'était vraiment quelque chose d'important. Mmh. Donc, il y avait à la fois le désir, le sentiment de vivre le plus beau jour de sa vie, mais peut-être aussi le sentiment que même en cas de défaite, ça resterait quand même le plus beau jour de vie.
C'est vraiment à une autre époque du football. Les primes de match, je ne sais même pas s'il y en avait. Vous racontez dans votre livre « Un printemps 76 » publié chez Stock qu'ils ont des ambitions, mais très modestes, les joueurs de Saint-Etienne.
C'est ça, ce sont nos confrères de François qui, à l'époque, vont de l'un à l'autre et leur demandent, mais franchement, avec l'argent, par exemple, de la Coupe d'Europe, avec la prime de champion d'Europe, qu'est-ce que vous feriez ? Et si en général, moi, ma femme a une bijouterie, donc je pourrais investir. L'autre, je pourrais me faire construire un petit pavillon, peut-être dans la banlieue de Saint-Etienne. L'autre, je partirais peut-être en croisière. Enfin, aujourd'hui, avec une prime de Coupe d'Europe, ils peuvent acheter la moitié de leur ville natale, à peu près, en général. Mais voilà, à l'époque, on est quand même à une époque où le footballeur moyen a un seul rêve, c'est la fin de sa carrière, devenir représentant Adidas dans le département d'origine ou éventuellement dans le département de sa belle famille.
Adidas ou Puma, pour dire deux marques, comme ça on est tranquille.
Oui, à l'époque, honnêtement,
il n'y en avait pas d'autres. Alors, on a beaucoup parlé de Dominique Rocheteau. Évidemment, ce soir-là, pour la finale, il est blessé. Il joue quand même, finalement. Comment ça se passe ?
Mais depuis 3 semaines, nous ne vivions plus, Thomas. Chaque jour, c'était le feuilleton dans les journaux. On ouvrait les journaux fébrilement. Rocheteau s'est fini, ou Rochot, il y a un espoir, Rochot, un essai demain, Rochot serait un peu mieux, peut-être qu'il peut jouer 5 minutes, et finalement, l'avant-veille, on apprend qu'il va jouer sous infiltration, le docteur Petit va lui infiltrer un produit qui s'appelle de la novocaïne, et qui va anesthésier la douleur, parce qu'il a, une douleur musculaire dans la cuisse, et du coup, Rochot, à peu près, au début de la deuxième mi-temps, commence à s'échauffer, et lui, il se sent bien, il se sent des ailes, il a envie de jouer, et puis Robert Herbin, son entraîneur, attend, et finalement,
il attend trop,
et il ne le fait rentrer qu'à la 83e minute, un moment où on a l'impression qu'il va être trop tard. Alors on espère tous qu'il ne soit pas trop tard, mais il va être trop tard.
Saint-Etienne perd donc, 1-0. Qu'est-ce qui avait marqué pour les Allemands déjà,
C'était Roth. C'était un milieu de terrain qui s'appelait Roth et qui a marqué un coup franc direct à la suite d'une faute un peu généreusement sifflée par l'arbitre hongrois, M. Palotaille, pour une faute soi-disant de Piazza sur Gerd Müller.
Piazza, le défenseur argentin de Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne perd sa finale. Faudra attendre quand même Marseille 15 ans après pour qu'un club français gagne enfin cette Coupe d'Europe. Pourtant, les Verts sont fêtés comme s'ils avaient gagné une descente des Champs-Élysées pour des perdants que Roger Zabel fait vivre ce jour-là en direct aux auditeurs d'RTL.
Roger Zabel.
Oui, je me trouve actuellement à l'Étoile où le cortège des Verts est en train d'arriver. C'est absolument fantastique ce qui se passe ici. Vous savez, il y a plusieurs voitures, petites voitures individuelles dans lesquelles il y a deux joueurs par voiture qui sont debout, des petites voitures décapotables. Ils sont escortés par des motardes magnifiques, tout de blanc vêtus. Là, je vois à l'instant Ivan Kurkovic qui passe à côté de moi. Il y a Chaer, Lacuesta, tous les joueurs de Saint-Etienne, même ceux qui n'ont pas participé à cette finale, sont là pour défiler. Ils vont maintenant descendre les Champs-Élysées.
Vincent Duluc, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces joueurs de Saint-Etienne ? Représentants en chaussures de sport ?
Parfois, c'est-à-dire qu'ils ont des destins assez inégaux. Alors très peu ont fait carrière vraiment dans le foot, dans le management. Jacques Santini a sans doute été le meilleur entraîneur d'entre tous. Mmh. Il est devenu sélectionneur de l'équipe de France entre 2002 et 2004. Avec une réussite honorable, il fait un quart de finale de l'Euro en 2004. Il avait fait un grand chelem en qualification. Il a fait une grande carrière en club. Robert Herbin, je l'ai dit tout à l'heure, n'a réussi nulle part ailleurs. Ivan Kurkovic est devenu président de la fédération yougoslave et aussi de son club d'origine du Partizan de Belgrade.
Dont Jean-Michel Larquet.
On l'entend
chez nos confrères.
A fait une grande carrière de consultant. Mmh, absolument.
Très belle carrière.
Vraiment une belle carrière.
Il a même quasiment créer le boulot de consultant à la télévision, Jean-Michel Larquet.
Oui, et parfois, très franchement, quand il faisait duo avec notre ami Thierry Roland, qui était un vrai gentil, c'était plutôt Jean-Michel, le journaliste, parfois. Mmh. Donc, il a vraiment tiré le métier de consultant vers le haut. Mais d'autres joueurs ont eu des destins un peu anonymes. Gérard Janvion, par exemple, n'a plus grand-chose. Christian Sinaegel a quitté le foot et s'est occupé d'une bijouterie.
Et après cette défaite en Coupe d'Europe, est-ce que le club va connaître une descente en enfer ?
Le club va connaître une descente en enfer dans les 6 ou 7 ans qui ont suivi avec l'affaire de la Caisse Noire, avec la mégalomanie un peu rampante de son président Roger Rocher. C'était à peu près, puisqu'à l'époque de la Coupe d'Europe, c'était le moment où il envoyait des télégrammes de condoléances à la veuve de Mao, à la veuve de Tito, qui téléphonait à l'Élysée pour féliciter Valéry Giscard d'Estaing pour son élection. Donc
il avait fondu un plomb.
Voilà, il avait des moments comme ça où il était parti de rien et il était arrivé un peu trop haut.
Ouais. Et Saint-Etienne aujourd'hui joue la Ligue Europa, c'est ça, la petite Coupe d'Europe?
Absolument. Alors c'est une petite Coupe d'Europe, mais c'est quand même une vraie Coupe d'Europe. C'est l'équivalent de la Coupe de l'UEFA de l'époque, oui, par exemple,
belle compétition,
que Bastia est arrivé en finale en 78, c'était une vraie Coupe d'Europe pour nous, c'est à peu près l'équivalent. Donc Saint-Etienne reste un club qui vit sur la nostalgie, mais qui a quand même su se renouveler et qui a une trajectoire tout à fait honorable aujourd'hui.
Et qui a gagné le derby hier soir 1-0 contre Lyon. On sent que ça vous fait un peu mal quelque part. Merci beaucoup Vincent Duluc. Votre livre Un printemps 76 est publié chez Stock.
Vous écoutez RTL.